Bon, revenons sur cette tuerie dans une synagogue à Pittsburgh. Eh bien, c'est l'acte le plus meurtrier contre la communauté juive de l'histoire des États-Unis. Richard Châteauvert est là. Richard, le suspect fera une première comparution devant le tribunal cet après-midi.
Robert Bowers, 46 ans, fait face à 29 charges fédérales, dont crime haineux, et à 23 charges déposées par l'État de Pennsylvanie, dont meurtre et tentative de meurtre. Les 11 victimes sont 8 hommes et 3 femmes âgées de 54 à 97 ans. L'une des victimes, Joyce Feinberg, 75 ans, était native de Toronto. 6 personnes ont été blessées, dont 4 policiers qui ont échangé des coups de feu avec le suspect qui lui-même a été blessé. Bowers était armé de 4 armes qu'il a toutes utilisé, un fusil semi-automatique AR-15 et 3 pistolets Glock. Les autorités vont réclamer la peine de mort.
Et ce Bowers était un antisémite qui en voulait surtout à un organisme d'aide aux immigrants.
Avant de se rendre à la synagogue Tree of Life, Robert Bowers a publié un message sur Gab, un réseau social d'extrême droite dans lequel il s'en prenait à la Société hébraïque d'aide aux immigrants qui aide les immigrants de toutes origines. Bowers accusait la société de faire entrer aux États-Unis et, je cite, « des envahisseurs qui tuent notre peuple ». Bowers a ouvert le feu en criant « tous les Juifs doivent mourir », et même après avoir été atteint de plusieurs coups de feu, il a déclaré à un policier « Je veux juste tuer des Juifs ». Selon la Ligue anti-diffamation, le nombre d'actes de harcèlement, de vandalisme et de violence contre les Juifs a progressé de 34 % en 2016 et de 57 % en 2017.
Merci Richard, on vous retrouve tantôt. Fabrice de Pierrebourg est avec nous parce que quand un attentat est commis, au nom de l'islam radical, que ce soit au nom de, par exemple, l'État islamique ou Al-Qaïda, rapidement, on met l'étiquette, c'est de la terreur, c'est un acte terroriste. Mais quand, par exemple, la communauté juive est visée, quand la communauté musulmane est visée, quand la communauté chrétienne est visée, bien là, on n'est pas trop sûr et on hésite beaucoup. Et Fabrice, il faut dire que dans le cas qui nous intéresse, dans le cas de Bowers, c'est un antisémite, c'est la haine des Juifs. Est-ce qu'on peut parler, cette fois-ci, d'un acte de terreur contre cette communauté?
Ben, Paul, d'après moi, oui. Puis, encore une fois, on va peut-être nous accuser, parce qu'on a déjà eu ce débat-là, qu'on fait de la sémantique, on va dire futile, ou de la démagogie. Mais Robert Bowers, effectivement, puis Richard l'a bien expliqué, il a lui-même motivé politiquement et idéologiquement sa haine des Juifs avant l'acte, hein, sur le fameux réseau social Gab, pendant et après. Ce n'est pas un tueur de masse qui a tiré au hasard. Donc, il n'y a aucune ambiguïté. Oui, c'est une fusillade, c'est un crime haineux, c'est un crime antisémite, mais c'est surtout et avant tout un acte terroriste qui est commis par un extrémiste de droite. Ça en a le goût, la saveur et la couleur. Il n'y a aucune différence finalement entre lui ou entre Anders Breivik ou je dirais même les frères Kouachi quand ils sont rentrés à Charlie Hebdo. Et puis comme par hasard, Bowers, tout comme Bissonnette, ben, dans les deux cas, on a deux racistes qui sont rentrés dans un lieu de culte, qui ont agi pour des raisons idéologiques et aucun n'a été accusé de terrorisme.
Bon, alors, on nous dit que dans le cas, par exemple, de Bissonnette, on le sait, on n'a pas retenu la thèse de l'acte terroriste. Et pourtant, pardon, il avait ciblé la mosquée, il avait fait des visites au préalable pour établir son plan.
Tout à fait.
Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas une organisation comme telle qui existe qu'on hésite à mettre l'étiquette?
Alors ça, c'est un bon point. Parce que pour Bissonnette, effectivement, Paul, le code criminel canadien, pourtant, est très clair. Hein, puis je l'ai mis sur mon compte Twitter, là. C'est quand on agit, quand c'est un acte qui est fait au nom d'un but, d'un objectif ou d'une cause, que ce soit politique, religieuse, idéologique, en vue d'intimider puis de causer des blessures sur glaive ou la mort, ce qui a été le cas, c'est un acte terroriste. Pourtant, on ne l'a pas fait. Pourquoi ? Ben, on nous a dit à l'époque que c'était complexe, c'est compliqué à prouver en cours, que ça peut être l'objet de débats sans fin. Puis finalement, si on lui colle uniquement l'étiquette de meurtre au premier degré, il va prendre 25 ans par chef, en moi, normalement, et on en finit là, quoi. Mais, et puis pour Bowers, c'est pareil, mais ce n'est pas le seul. Quand on regarde le cas aussi de... comme il s'appelle César Sayoc, qui a envoyé des lettres piégées. Il n'est toujours pas accusé de terrorisme. Et j'ai vérifié ce matin, ce qui m'a stupéfait, c'est que Timothy McVeigh, qui a fait un attentat, vraiment un carnage au milieu des années 90 à Oklahoma City, il n'a pas été accusé de terrorisme. Alors moi, j'ai l'impression qu'au fil du temps, le terme terroriste, finalement, c'est une étiquette qu'on colle sur des groupes djihadistes uniquement, et qu'il y a cette idée fausse qu'un individu qui n'est pas affilié ou qui ne se revendique pas d'un groupe terroriste identifié, au Canada il y en a 54, Paul, mais aucun d'ailleurs d'extrême droite, ou qui ne répond pas à un mot d'ordre d'un chef de groupe terroriste, ou si ce n'est pas revendiqué, bah, dans l'esprit des gens ou même du système, ce n'est pas un attentat.
Mais en même temps, pardon Fabrice, j'allais dire, dans le cas de Timothée McVeigh, il faisait partie d'une mouvance d'extrême droite, de gens qui sont contre l'État, qui pensent que l'État, le gouvernement, avec un G majuscule, est en train de contrôler leur vie. McVeigh, c'est pas quelqu'un, là, c'est pas un lunatique qui est arrivé, là, il a préparé de longue date l'attentat qu'il a mené contre un édifice gouvernemental.
Tout à fait. Puis encore une fois, il y avait une motivation. Puis il y a toujours, puis là j'ai fait des recherches hier, là, personne n'est d'accord finalement sur le mot terrorisme. Hein. Je sais que l'ONU, il y a quelques années, avait appelé les États à trouver une définition commune du mot terrorisme. Mais il y a plein d'impacts, entre autres. Et puis ce que j'ai constaté, c'est qu'en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis, on hésite toujours et il n'y a pas de groupe terroriste intérieur. Parce qu'on pense que ça va venir finalement en confrontation avec les droits individuels, la liberté d'expression, etc. Donc c'est beaucoup plus facile de coller une étiquette de groupe terroriste et donc par conséquence de membre d'un groupe terroriste ou d'attentat terroriste ou de terroriste à un individu ou à un groupe qui vient de l'extérieur. Et ça, je trouve que c'est dommage parce que ça accroît le ressentiment d'injustice et deux poids, deux mesures au sein de certaines communautés, en particulier musulmanes. Puis je vais vous dire, ça donne du carburant à la propagande des groupes djihadistes qui incitent souvent sur le fait d'ailleurs que l'Occident a un biais négatif contre les musulmans.
Merci beaucoup, Fabrice de Pierrebourg. Puis peut-être le dernier point sur ce thème-là. Je sais que beaucoup ont dit en fin de semaine que le président Trump était responsable. Dans le cas de Bowers, c'est quelqu'un qui n'aimait pas le président. Il trouvait que le président n'était pas assez radical. Dans le cas de celui qui a envoyé les colis piégés, là, c'est autre chose. C'est un partisan. Sa camionnette était tapissée de messages, pour reprendre l'image que j'ai entendue en fin de semaine. C'était comme une page Facebook, mais avec un moteur puis des roues, parce qu'il vivait carrément dans cet environnement. Puis c'était un gars complètement menteur qui se présentait comme un ancien joueur vedette de soccer, comme quelqu'un qui avait de l'argent, quelqu'un qui avait une carrière extraordinaire. Or, c'était un DJ dans un club de danseuses et qui faisait des entraînements au gym. C'était à peu près ça, sa vie. Et les gens qui l'ont côtoyé disent qu'il était bizarre et qu'il semblait, là, pour reprendre une expression assez connue, là, le genre pas trop de vie. Tu sais, quelqu'un là, qui carbure sur les mêmes idées. Et donc, tout ça pour vous dire que, et avec les exemples qu'on vient de donner, c'est sûr que Trump lui-même stimule pas mal de crackpots par ses messages, mais les crackpots ont toujours existé avant Trump. McVeigh, pour aller planter un camion bourré d'explosifs, et placer ça près d'une garderie, en plus, dans cet immeuble. Trump n'était pas président des États-Unis à ce moment-là. On va aller retrouver Marc, évidemment, des problèmes usuels, mais aussi des problèmes encore avec le train de banlieue.